Maria Dufal et vous sur les ondes de la Radio CEF.
Bonjour Abdoulayo, on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour Marion, ça va?
Ça va bien et vous?
Ok, très bien, merci.
Donc vous présentez depuis quelques temps maintenant une conférence les mercredis qui s'intitule « Liberté d'expression et réseaux sociaux et si on en parlait ?» Donc cette conférence, elle se déroule en ligne. Donc les réseaux sociaux étant omniprésents dans la vie de toutes et tous aujourd'hui, en tout cas en grande majorité, il nous semblait important de traiter ce sujet et étant donné que vous donnez cette conférence, vous nous semblez la personne la mieux placée pour répondre à nos questions. On associe souvent les réseaux sociaux aux jeunes générations. Est-ce que vous pensez que ce sujet, il ne concerne uniquement les adolescents et les jeunes adultes?
Non, pas forcément. En fait, les réseaux sociaux, c'est vraiment pas l'apanage des jeunes. Les réseaux sociaux concernent toutes les générations. Mais ce qui est différent, c'est leur consommation, la consommation des réseaux sociaux. Une génération peut l'utiliser d'une façon, alors que l'autre génération ne l'utilise pas de la même façon. Si on prend par exemple la génération, ce qu'on appelle les jeunes générations, la génération Z ou les milléniaux, quand on prend ces générations-là, ils vont utiliser les réseaux sociaux beaucoup plus pour se distraire, pour socialiser, aller être en contact avec les amis. Alors que les générations, on va dire les personnes les plus âgées, je dis comme moi, on va l'utiliser davantage pour aussi pour rester en contact avec des amis, mais aussi pour pouvoir avoir de l'information, donc pour être au courant de l'actualité. Donc c'est surtout ça. Mais je dirais ce qui est spécifique aux jeunes, c'est qu'ils vont consommer les réseaux sociaux sur leur téléphone cellulaire. Ça, c'est vraiment spécifique. Puis les réseaux sociaux également, on peut l'utiliser également pour donner son opinion. C'est pourquoi on parle des réseaux sociaux et liberté d'expression.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus en détail ce que vos conférences, elles abordent comme thème?
Alors, dans les conférences, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à partir des exemples concrets qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Ça peut être des exemples où il y a eu des expressions d'opinion. Ça peut être controversé. Ça peut être des expressions artistiques un peu controversées. Et on va partir de ces exemples-là et puis on va en discuter entre les participants. Voici oui ou non, d'après eux, il y a oui ou non liberté d'expression. C'est vraiment ça. Et puis on va discuter également de tout ce qui est limite à la liberté d'expression. Parce que oui, c'est un droit, mais c'est pas un droit absolu. Donc, c'est important de discuter de tout ça. Donc, ce sont des échanges qu'on a dans ces ateliers-là.
Et est-ce que justement, vous abordez toujours ces mêmes thèmes, ces mêmes questions et ces mêmes exemples, ou est-ce que vous variez au fil des conférences?
Ça va changer. En fait, ce qui va changer, c'est que ce sont les participants qui vont vraiment, à travers leurs discussions, à travers les débats, qui vont enrichir, qui vont nourrir le contenu. Oui, il y a des concepts de base qu'on va déployer de semaine en semaine, mais si vous venez, par exemple, Marion, vous assistez à deux ateliers qui portent sur le même thème, vous allez sortir avec une expérience différente. Ça va être comme ça. C'est vraiment ceux qui sont présents là, qui vont vraiment, je dirais, qui vont donner la couleur à l'atelier.
Pour certaines personnes, cette notion de liberté d'expression, elle peut être encore un peu floue. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une définition?
Alors, c'est un droit. C'est un droit, c'est le droit de donner son opinion. Et cette opinion, elle peut être controversée. Cette opinion-là, elle peut être dérangeante. Elle peut même être blessante. C'est aussi le droit de critiquer, par exemple, ce droit-là est protégé par la Charte des droits et libertés. Donc, c'est un droit, la liberté d'expression. Je disais également, c'est le droit de critiquer et sans être inquiété. Donc, moi, par exemple, ce matin, je pourrais vous dire que la radio, votre radio, elle n'est pas indépendante. Je pourrais le dire comme exemple. Ma définition n'est pas suffisante si je ne vous donne pas le droit à vous de répliquer. Donc, la liberté d'expression, c'est un droit de critiquer sans être inquiété, mais en retour, il faut que vous aussi, Marion, puissiez répondre à répliquer. Si je dis que votre attitude n'est pas indépendante, si je n'ai pas les preuves, il va falloir que vous puissiez répliquer à ce que je fais. Donc, oui, droit, mais en même temps, il faut qu'on puisse donner la réplique.
Et est-ce qu'il y a une certaine limite? Est-ce que il y a des choses qu'on peut exprimer, mais est-ce que ça peut aller trop loin et dépasser cette liberté?
Absolument. Dès l'instant que, je dirais, la ligne rouge à ne pas franchir, c'est quand il y a incitation à la haine, quand il y a propagation à la haine. Dès qu'on fait ça, on ne parle plus de liberté d'expression. Là, on enfreint carrément. Là, non, ce n'est plus de la liberté d'expression.
Est-ce que pour vous, les réseaux sociaux, ils représentent réellement un danger?
Oui, il y en a, parce que sur les réseaux sociaux, il y a la propagation des fausses informations. Sur les réseaux sociaux, on voit ce qui se passe également. Il y a d'autres dangers. Il y a le fait que en plus, il y a la sextorsion, par exemple. Sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle les trolls. Le fait que on puisse accuser quelqu'un, il peut avoir de la diffamation sur les réseaux sociaux également. Oui, il peut avoir des dangers au niveau de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. En même temps, je le dis souvent dans les ateliers, on peut ne pas être d'accord, mais on peut dire que les réseaux sociaux, c'est un problème, mais en même temps, ça peut être aussi la solution. Parce que les réseaux sociaux, c'est l'occasion pour les gens aussi de pouvoir s'exprimer. On ne peut pas revenir en arrière pour dire qu'il n'y a plus de réseaux sociaux. Parce que certaines personnes aujourd'hui n'ont plus confiance aux médias traditionnels. Et une des discussions qu'on a également dans nos ateliers, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, qui ont des positions discordantes dans notre communauté? Et donc, je prends cet angle-là parce qu'on est en situation minoritaire. Dans une situation minoritaire, qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui sont en désaccord? Il faudrait qu'on puisse donner un espace à ces personnes-là, de telle sorte qu'elles puissent s'exprimer, parce qu'elles ont aussi à contribuer dans cette communauté minoritaire-là. C'est très, très important, cet aspect.
Et comme vous l'avez abordé, justement, je trouve aussi que les jeunes changent de médias pour s'informer.
Oui.
Avant, je me souviens quand, par exemple, j'étais plus jeune, on était toujours tous les soirs assis devant la télé à regarder les chaînes d'information.
Oui.
Mais maintenant, de moins en moins de gens écoutent la télé.
Oui.
Et de plus en plus, en fait, les personnes vont se rabattre sur les réseaux sociaux et chercher les informations, les news sur ce média-là. Et donc maintenant que ça fait partie intégrante de la vie de chacune et de chacun, en tout cas pour une grande majorité. Comment peut-on apprendre à s'en servir de façon constructive?
Absolument. Au niveau des dangers, je pense que au niveau des dangers des réseaux sociaux, je voulais revenir parce que c'est important. Nous sommes ici sur une radio pour élèves, donc c'est très très important. Évidemment, les parents suivent également, mais c'est très très important parce que un des dangers, on parle ici des réseaux sociaux, un des dangers, c'est le fait que c'est le danger au niveau de la santé mentale des jeunes, le fait que le temps, ce qu'on appelle le temps d'écran, c'est son utilisation excessive. Donc si on passe beaucoup, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, on peut être accro aux réseaux sociaux. Je ne suis pas en train ici d'accuser les jeunes. Ce que je suis en train de dire là, c'est que les compagnies, ce qu'elles font pour pouvoir monétiser, veulent qu'on passe le plus de temps dessus. Donc, vont développer des algorithmes, vont faire même leur design de téléphone de telle sorte qu'on puisse, on aime bien ça, on aime le tenir, c'est bien fait. Donc, ce sont ces compagnies-là qui vont, je dirais, faire tout pour qu'on passe le plus de temps dessus. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train d'accuser les jeunes. Donc, ça fait un peu, ça peut être un des dangers, le fait de son utilisation excessive. Alors, l'autre danger également, j'en ai parlé tantôt, c'est tout ce qui est sextorsion. Et ça, c'est important, la sextorsion, parce que ça peut même amener jusqu'au suicide. C'est arrivé que des personnes ont vu des photos d'elles-mêmes nues sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un gros danger. Et le danger aujourd'hui, le plus criant, je dirais, c'est tout ce qui est l'intelligence artificielle. Parce qu'on pourrait utiliser une photo de quelqu'un, que la personne photo, je dirais, innocente, la personne a posé sa photo. L'intelligence artificielle, les logiciels sont tellement sophistiqués que les photos peuvent être réalistes, mais en dénudant cette personne. Et ça c'est un des dangers également des réseaux sociaux. Donc ça, c'est important.
Et par exemple, pour ce danger, parce que c'est des choses qui sont déjà arrivées, qui sont en train d'arriver, quel recours la victime, est-ce qu'elle peut avoir, vers qui, vers quoi elle peut se tourner pour obtenir de l'aide?
Alors, évidemment, c'est très, très nouveau aujourd'hui. Ils sont en train de voir au niveau des lois pour qu'on puisse... ça devient un crime. Donc, ceux qui ont fait ça vont être pénalisés pour pouvoir avoir fait ça. Mais je pense à ceux qui vont continuer de propager ces photos-là. Donc, tout le monde a un rôle à jouer. Si vous recevez une photo d'une personne nue, ce n'est pas à vous à propager. Donc, arrêtez la propagation de ce type de photos. C'est ce que je dirais. Parce que ça y va de la santé mentale des personnes-là. Elles n'ont pas choisi de faire ça. Donc, moi, je mettrais... et puis, les compagnies aussi ont un rôle là-dessus. Parce que la question que les gens vont se poser, à qui le blâme? Est-ce que c'est la personne qui a pris la photo, par exemple, qui l'a mis sur les réseaux sociaux, ou la plateforme qui continue de le laisser sur les photos, qui ne va pas supprimer la photo? Donc, il y a tout ce débat-là qui est là, mais oui, c'est un crime de faire ça aujourd'hui.
Alors, juste pour revenir sur l'idée du temps d'écran,
oui.
Parce que justement, je sais que sur certains téléphones,
oui.
On reçoit, oui. Vous avez votre temps d'écran augmenté, oui. Votre temps d'écran a diminué.
Oui.
Et sauf que des fois, on a du mal à le contrôler parce
oui.
que c'est clairement une addiction.
Absolument.
Est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour nous aider nous-mêmes à essayer de nous réguler un peu?
Absolument. Une des choses à faire, c'est ne pas dormir avec, par exemple, simplement. On peut mettre le téléphone un peu loin, ne pas dormir avec. Et puis, c'est une tentation. À chaque fois qu'on y va, que c'est pas pour vraiment qu'on sent que c'est... on est tenté, il faut se retenir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un des gros dangers, ils appellent ça la nomophobie. Qu'est-ce que c'est? La nomophobie, c'est le fait d'avoir peur de perdre son téléphone. Ça crée de l'anxiété, ça crée de l'angoisse. Et... on a même peur que notre téléphone se décharge. C'est fou. Il y a des gens qui deviennent violents parce que leur téléphone se décharge. Donc, c'est grave. Donc, il y a un gros danger aujourd'hui par rapport à ça. Mais, encore une fois, ce que je dis, les compagnies ont un rôle à jouer, le gouvernement a un rôle à jouer également. Même au niveau de l'intelligence artificielle, okay, j'ai parlé d'un des aspects néfastes, mais des aspects positifs également. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour traquer les prédateurs sexuels. Donc il faudrait voir toujours les deux côtés également. Les réseaux sociaux également, c'est une façon, si on l'utilise de façon constructive, c'est des formidables sources d'informations. Ça permet de stimuler la créativité. Par exemple, quelqu'un qui utilise TikTok, hein, que vous connaissez, vous voyez tout ce qui est en lien avec la musique, la danse, et ainsi de suite. Donc, ce sont des outils très, très bons, aussi bien pour les jeunes, pour tout ce qui est créativité. Par exemple, quand on utilise par exemple Instagram, c'est peut-être différent parce que Instagram, ce que ça fait, ça va montrer tout ce qui est esthétique, ça va montrer la mode également. Mais ça peut aussi véhiculer un faux message. Parce que ce que je vois sur ces réseaux sociaux, je pense que c'est la vérité de tous les jours. C'est la réalité de tous les jours. Mais parce que les gens ont tendance à se montrer dans des bonnes postures quand ils sont joyeux. Et quand je regarde ça, je peux être déprimé. Je dis, ah, mais telle personne est sur une belle plage quelque part au soleil alors que je suis là. Donc, il faudrait faire très, très attention à ça. Donc, ça, c'est ce que ferait, par exemple... Instagram, TikTok, j'en ai parlé tantôt. Quand on prend par exemple X, Twitter, l'ancien Twitter, ce que X fait, c'est tout ce qui est information, culture générale, également expression de son opinion. C'est là où on peut trouver des fausses informations, on peut trouver également la propagation de la haine dessus.
Alors pour revenir aussi sur l'idée de la liberté d'expression, quelle est la limite entre la liberté d'expression et le respect de la vie privée?
Alors, il y a une limite là-dessus. Si par exemple, Marion, moi je partageais vos informations personnelles sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle le doxing, si je le faisais. Et puis en plus de ça, je vous menaçais de mort. Là, ce n'est plus la liberté d'expression. Là, c'est une atteinte à votre vie privée. La question, c'est vrai qu'il faut être prudent par rapport à ce qu'on va partager sur les réseaux sociaux avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dont je vous parlais tantôt. C'est vrai. Donc, mais en même temps, est-ce qu'il va falloir toujours... Oui, les personnes doivent faire attention, mais en même temps, il faut pas toujours mettre le blâme sur les utilisateurs ou les utilisatrices. Je pense que les compagnies ont un rôle fondamental à jouer.
Pour parler d'un point un peu plus positif, les réseaux sociaux, ils ont aussi permis une certaine libération de la parole. et je pense notamment au mouvement MeToo. Donc pour rappel, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est un mouvement qui a été fondé en 2006 par la militante pour les droits civiques Tarana Burke pour dénoncer les violences sexuelles. Donc ce mouvement, il a pris de l'ampleur en 2017 dans la foulée de l'affaire Harvey Weinstein, lorsque l'actrice américaine Alyssa Milano a lancé sur Twitter un appel aux survivantes de harcèlement et d'agressions sexuelles, les invitant à publier un message en disant « moi aussi », donc « MeToo ». Et au cours des années suivantes, ce mouvement MeToo, il a eu un gros impact aussi bien en ligne que dans le monde réel en permettant de faire tomber de nombreux agresseurs. Donc, que pensez-vous du rôle des réseaux sociaux dans la libération de la parole ?
Absolument, c'est là où on voit encore cet outil formidable. Parce que si les médias traditionnels, les gens ne font pas confiance aux pas tout le monde, mais on voit là un des aspects positifs des réseaux sociaux, où les réseaux sociaux sont en avance. C'est à travers les réseaux sociaux qu'il y a eu ce mouvement MeToo, et ensuite les médias traditionnels vont commencer à républier. Donc oui, ça c'est un des aspects positifs. Ce qu'il faut faire, c'est surtout protéger les personnes qui ont eu le courage de dénoncer leurs agresseurs. Il faut les protéger si on veut que la parole soit libérée. Donc ça c'est encore une fois un des aspects positifs des réseaux sociaux.
Parce que les médias traditionnels, alors que eux décident à qui donner la parole, les réseaux sociaux, en fait, c'est les gens qui décident de la prendre. Donc si une personne arrive à trouver le courage, elle peut s'exprimer, alors que dans les médias traditionnels, si on ne lui donne pas l'occasion, elle ne pourra pas le faire.
Ça revient aussi à toute la question de l'indépendance des médias traditionnels. Donc un média traditionnel qui est financé par exemple par l'argent des publicités, qui est financé par exemple par l'argent du gouvernement, ce n'est pas la même chose qu'un média qui est indépendant, qui peut y aller, qui peut parler de façon libre. Voilà.
Et ne pensez-vous pas que certains créateurs de contenu sur les réseaux sociaux donc abordent des thèmes instructifs dont les jeunes ont besoin et qui ne sont pas réellement abordés, que ce soit à l'école ou à la maison, parce que ce sont des sujets considérés encore comme tabous, ou simplement parce que les parents et les professeurs ne savent tout simplement pas comment l'aborder? Et dans ces sujets, je pense notamment à ceux liés à la sexualité.
Absolument. Et ça, encore une fois, en fait, bien de le dire, parce que tout ce qui est lié à la sexualité, tout ce qui est lié, par exemple, aux maladies sexuellement transmissibles, les jeunes pourraient y aller tranquillement pour pouvoir avoir de l'information. Donc oui, les réseaux sociaux ont un rôle majeur à jouer à cet effet-là.
Et comment pensez-vous que cette relation entre les réseaux sociaux et la liberté d'expression, elle va évoluer, avancer dans les prochaines années ?
Alors, je dirais que vraiment le danger, c'est la concentration. C'est la concentration de ces réseaux sociaux. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand une compagnie commence à avoir tous les pouvoirs, c'est après ce qu'on appelle la concentration. Et quand il y a cette concentration, ça va créer de la censure. C'est-à-dire que c'est cette compagnie qui décide qui va parler, qui ne peut pas parler. Donc ça, il faudrait faire très, très attention à cela, à cette question de concentration. Et là aussi, faut pas compter sur les réseaux sociaux. On parlait tantôt d'algorithmes. Il ne faut pas compter sur les réseaux sociaux pour s'auto-réguler. Donc, je pense que le gouvernement a un rôle à jouer là-dedans pour favoriser le bien-être numérique de la population. En même temps, oui, il faut légiférer, mais en même temps, il faut faire attention, il faut trouver un équilibre pour ne pas arriver à la censure. Parce que Marion, même si je ne suis pas d'accord avec toi, même ce que tu vas me dire, nous sommes en désaccord, mais il faut que... Même ce que tu vas me dire peut me blesser, je peux ne pas aimer, mais il faut que tu aies le droit de pouvoir le dire. Mais en même temps, en retour, il faut que moi aussi j'ai le droit de répliquer, tant que ce qu'on est en train de faire n'est pas une incitation à la haine ou à la propagation de la haine.
Et comment est-ce que les parents aussi peuvent aider? Parce que maintenant, surtout pour les adolescents, donc plus ils sont grands et moins on peut les empêcher d'aller dessus. Donc comment est-ce qu'ils peuvent les aider à s'en servir d'une bonne façon, à ce qu'ils ne tombent pas dans des choses justement nocives, sans pour autant les en priver, quoi.
Évidemment, on n'est pas là pour faire de la morale. Comme j'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui est en train de faire de la morale. Ce n'est pas évident. La pression est forte. La pression est très, très forte sur les jeunes. Parce que quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas accès aux réseaux sociaux, on parle des jeunes, c'est comme la personne est exclue de son groupe d'amis. Donc, l'utilisation excessive. Les parents peuvent évidemment essayer d'aider, de faire une éducation par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Mais in fine, en bout de ligne, revenons toujours à ceux qui ont fabriqué ces réseaux sociaux. Parce qu'eux, ils ont à gagner. Plus on va l'utiliser, plus on va passer du temps là-dessus, plus ils monétisent, c'est-à-dire que plus ils font de l'argent. Donc on ne peut pas être naïf, dire ok, blâmer les parents, blâmer les jeunes. Oui, il y a un rôle à jouer, mais in fine, il faudrait que le gouvernement agisse. Il faut que également ces compagnies de plateformes numériques également puissent proposer des outils qui sont sains pour la population.
Et pensez-vous que ça va évoluer de ce côté-là
C'est difficile à dire. Je peux pas. Les compagnies vont vouloir faire des profits, mais il va falloir que, c'est comme un balancier, il va falloir que quelqu'un dise oh non, ça va trop loin, c'est pas comme ça. Mais il va avoir toujours cette tentation de vouloir plus, de créer plus de contenu pour rendre les gens beaucoup plus dépendants des réseaux sociaux. Mais il faut être vigilant. Donc je peux pas dire que oui ça va être réglé du jour au lendemain. Il faut créer de la vigilance. Il va y avoir des tensions.
Merci beaucoup Abdoulaye d'avoir été avec nous, c'était un vrai plaisir et on vous remercie d'avoir abordé ce sujet si important à nos côtés. À bientôt Abdoulaye.
Ok, merci beaucoup Marion, c'était un plaisir.
Ici Gabriel Dufresne et vous sur les ondes de la Radio 7.